Big Little Lies, petit secret, gros mensonge, pour reprendre le titre du roman dont cette série est adaptée. Vous savez, cette série qui a valu à Nicole Kidman moult récompenses, une série qui pépa de mine comme ça, trois mères de famille, dans une petite ville de la côte ouest des États-Unis. Sur le papier, rien ne se voit. Ce n'est que petit à petit, insidieusement, que l'on comprend, que craque le vernis, qu'on commence à voir ce qui se joue dans l'intimité de chaque foyer, ce qu'on montre pas, ce que personne ne voit. Fascinante série que Big Little Lies, à l'heure du grand chamboulement des structures de pouvoir, depuis les collines de Hollywood jusqu'au foyer du monde entier. Fascinante parce qu'elle explore la domination dans tout ce qu'elle a de plus secret, cette violence domestique dont on ne parle jamais, mais dont on sait pour autant qu'elle est le lieu de l'immense majorité des cas de harcèlement, d'agression, de viol, jusqu'au meurtre. Fascinante série parce qu'elle met en lumière ce qu'on n'a pas beaucoup interrogé récemment en pleine campagne MeToo, dans les médias mais aussi à la télévision ou au cinéma. Big Little Lies, cette série qui donne à voir les mensonges et les secrets, mais surtout les non-dits, à l'heure où, dit-on, la parole s'est libérée.
Boomerang, Boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui rend précisément visible ce que l'on se refuse à voir à les comédiennes sur les planches et sur grand écran, et sera à l'affiche la semaine prochaine du premier film de Xavier Legrand, Jusqu'à la garde, l'histoire d'un divorce qui tourne mal et d'une femme qui cherche à protéger son fils en demandant la garde exclusive. Un film sur un sujet ô combien d'actualité qui vire au thriller hitchcockien. Un grand film de cinéma, en réalité. Bonjour Léa Drucker.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. Comment on fait pour rendre visible ce qui se voit pas, ce qui se dit pas, surtout?
C'est étrange, c'est un peu le mystère du cinéma et sa magie. C'est un travail qu'on fait à plusieurs, avec des gens comme Xavier Legrand, le réalisateur, qui a un regard extrêmement sensible sur ce sujet-là, mais aussi sur les personnages et sur nous en tant qu'acteurs. Et puis c'est un travail qui se fait aussi avec un partenaire comme Denis Ménochet.
Qui joue votre mari dans le film.
Qui joue mon mari. Je crois qu'on a pu raconter des choses, en effet, qui étaient invisibles par moments, des choses sur... Dans un sujet comme ça, qui est la violence conjugale, on a pu aussi raconter des choses qui s'apparentent à un amour détruit aussi, à des choses qu'on ne voit pas dans le film et qui ont dû exister.
Pourquoi c'est si difficile, à votre avis, de briser le silence ?
Parce que je crois qu'on peut adopter parfois dans sa vie un système, un monde. On rentre dans un monde et c'est très difficile d'en sortir. On pense que c'est l'inconnu. Si on brise le silence, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est l'inconnu. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? Et qui on est?
Et le cinéma, pour vous, Léa Drucker, la fiction peut permettre, justement, avec des séries comme Big Little Lies ou avec votre film, Jusqu'à la garde, permettre de libérer la parole?
Je crois, oui. J'ai tendance à penser que le cinéma ne résout pas les choses, mais apporte une meilleure connaissance parfois des choses, un ressenti en tout cas. Ça, des fois, c'est pas forcément des choses intellectuelles, c'est des choses sensibles, un intérêt pour un sujet qu'on connaît pas bien, par exemple. Moi, je sais qu'après, avant que de tout perdre,
Le court-métrage.
Ouais.
Précédent.
Voilà, mais c'était déjà le même personnage et Denis Ménochet aussi faisait le mon mari. À la suite des projections, il y avait des femmes qui venaient me parler spontanément, trois ou quatre à chaque fois qui venaient et qui me racontaient leur vie, qui me racontaient ce qui leur était arrivé.
Vous diriez, Léa Drucker, que la sortie de ce film, elle tombe au bon moment?
Elle tombe à un moment, on n'avait pas prévu ce qui se passe. Elle tombe sans doute à un bon moment parce que cette libération de la parole. Suscite un intérêt sûrement. Quand je parle avec les journalistes, je vois bien aussi qu'il y a, il y a quelque chose.
Ça devient un sujet de société en réalité.
Je sens qu'il y a quelque chose qui est un peu universel quand même, auquel les gens sont extrêmement sensibles. Après, j'aimerais pas que ça envahisse non plus le regard qu'on puisse avoir sur le cinéma de Xavier, parce qu'il y a aussi la naissance d'un cinéaste, et ça, je veux pas qu'on l'oublie, parce que c'est quelque chose de précieux pour nous. Qui est mon cinéma, d'assister aussi au cinéma de Xavier Legrand.
Et ça, on va en parler évidemment. Mais d'abord, ce qui est intéressant dans votre interprétation aussi, c'est que votre personnage n'apparaît jamais comme une victime. Et c'était déjà le cas dans le court-métrage qui précède le film Avant que de tout perdre. Quelle question est-ce que vous vous êtes posée avec le metteur en scène Xavier Legrand pour qu'elle ne soit pas réduite à ce statut de victime?
Mais d'abord, la première rencontre qu'on a fait, on a parlé de cinéma. Et moi, j'avais envie de parler d'un film que j'avais adoré, qui était un film de Christian Mungiu, que vous avez sûrement vu, 4 mois, 3 semaines et 2 jours.
Le réalisateur roumain.
Parce que j'aime beaucoup dans son cinéma, il traite de sujets très fort, très lourd, et en même temps, il représente des gens qui sont toujours en action. Et c'est par l'action, parfois, qu'on peut raconter la psychologie d'un personnage. Mais il n'y a que de l'action. Et dans Avant que de tout perdre, il n'y avait que de l'action.
Et le cinéma, c'est de l'action, ce sont des images mouvantes.
Moi, c'est ce que j'aime, en tout cas. Et Xavier était tout à fait, on était tout à fait sur la même longueur d'onde. Et, on a parlé ensemble du fait qu'on ne voulait pas non plus représenter ce personnage comme quelqu'un qui est avec un excès de sentimentalisme ou de aller vers des choses qui soient trop de l'ordre du pathos. Parce qu'on voulait la montrer. On voulait aussi montrer quelqu'un qui prend sa liberté dans un contexte extrêmement douloureux, mais qui prend une liberté, qui cherche une renaissance aussi.
Et pour autant, s'il y a une émotion qui est développée dans le film jusqu'à l'extrême, c'est bien la peur de cette mère de famille qui s'exprime de manière silencieuse sur votre visage. Mmh. Comment est-ce qu'elle s'incarne, la peur, pour vous ?
Elle se ressent, c'est-à-dire qu'il faut accepter de pas en faire trop, de pas vouloir pas faire trop de démonstrations. Il faut accepter de se laisser traverser par les situations. Et dans cette première partie du film, j'ai pu me permettre d'être beaucoup en observation, un peu comme un animal. Je pensais beaucoup à les animaux quand ils sont dans un état de danger, ils bougent plus, ils se figent et ils regardent un peu ce qui se passe autour d'eux.
Yeux jaunes.
Ouais, et ils bougent pas, ils observent en attendant de voir d'où vient le danger avant d'agir. Donc elle est un peu dans cet état-là et elle est aussi paumée. Donc c'est la peur et c'est aussi quand on est un peu noyé dans des situations qui sont difficiles à comprendre, ne serait-ce pas dans tout ce qui est juridique. Elle s'est aussi embarquée dans une tentative de reconstruction par ce biais-là, et elle est aussi noyée par le bavardage qu'il y a autour d'elle.
C'est intéressant ce que vous dites sur l'écoute, parce qu'effectivement, dans le cinéma de Xavier Legrand, il y a aussi toute une dramaturgie sonore. Votre personnage est constamment aux aguets. Les moindres claquements de portières, crissements de pieds, bruit de pas dans le couloir provoquent une réaction, même infime. Il n'y a pas de jeu d'acteur sans écoute.
Non. Je pense qu'il n'y en a pas. Et c'est la première chose que j'ai appris quand j'ai commencé à travailler le jeu. J'étais dans un cours qui s'appelait chez Vera Gregg et c'est la première chose que j'ai appris, que j'ai compris qu'il fallait vraiment développer, c'était l'écoute. Parce que c'est à partir de là qu'on réagit à l'autre et c'est à partir de là qu'on est vrai. Et dans la vie d'ailleurs c'est pareil.
Ça veut dire être complètement disponible, réceptive tout le temps. Dans quel état est-ce que vous êtes quand vous jouez une scène? Si on prend par exemple une scène comme celle où votre mari dans le film essaie d'entrer de force dans votre appartement.
Ben, d'abord, il y a plusieurs choses dans cette séquence, c'est qu'il y a... Vous voulez dire la séquence de fin ou la séquence...
Ah non, je me permettrai pas.
Non, non. Dans la séquence où il revient avec Thomas.
L'enfant.
Oui, Thomas qui fait notre fils. On est... Ben, il y a quelque chose... Je suis saisie. Il y a en plus la présence de Thomas qui nous regarde, qui nous observe. Il y a une panique, mais en même temps, il faut pas montrer cette panique. Et en même temps, il faut écouter mon mari, que joue Denis, et comprendre quel est le message qu'il veut faire passer dans cette séquence. Il est imprévisible, c'est un personnage imprévisible. C'est vraiment, la menace vient de là, c'est de l'imprévu.
Il y a des scènes que vous avez peur de tourner, vous, en tant que comédienne ?
Oui, parce que j'ai parfois peur de pas être à la hauteur de certaines séquences. Il y a parfois des séquences où on se dit, bon là, il y a une charge émotionnelle qui va être assez puissante à trouver, et comment on fait pour y arriver? C'est toujours des angoisses qu'on a. Et puis il y avait parfois des séquences sur l'intimité, d'intimité, qui sont difficiles à trouver. Mais sur des choses très puissantes émotionnellement, ça peut être un peu angoissant la veille, à se dire, bon, quelle porte je vais ouvrir? On ne sait pas.
Des rôles comme le vôtre, Léa Drucker, dans Jusqu'à la gare, des rôles si intenses, complexes, denses, est-ce que le cinéma en offre suffisamment aux femmes? Je vous pose la question, parce que c'est un reproche qui est souvent fait à l'industrie du cinéma et de la télévision aussi.
Oui, bien sûr, je l'entends, j'ai dû le penser moi-même. Je trouve quand même, quand je vais au cinéma, en tant que spectatrice, ou quand je trouve qu'il y a quand même des choses qui se proposent avec des personnages féminins qui sont hyper intéressants. De plus en plus, ouais. Dans le cinéma d'auteurs français. Moi, j'ai eu cette chance aussi de travailler avec Éric Rochant. C'est des auteurs réalisateurs qui écrivent pour les femmes, des personnages complexes, des femmes intelligentes. Ça fait longtemps que je ne me suis pas retrouvée dans un rôle de potiche. En même temps, il y a des rôles de potiche que je trouve super quand elles sont drôles. Enfin, quand c'est Mira Sorvino dans Maudite Aphrodite. D'ailleurs, ce n'est pas vraiment une potiche, mais... Mais il faut que ce soit très drôle dans ce cas-là.
Depuis le séisme lié à l'affaire Weinstein, séisme qui ne se résume pas au monde du cinéma, d'ailleurs, à quelle révolution est-ce que vous aspirez, vous, à quel changement pérenne, durable, Léa Drucker?
Évidemment que les femmes aient plus de pouvoir dans le sens et qu'on leur donne des rôles avec qu'elles aient le pouvoir de faire plus de choses, qu'elles soient à des postes de pouvoir. Mais le problème du pouvoir, c'est qu'il y a forcément abus. Est-ce que les femmes sont pas capables parfois de faire des abus aussi? Je sais pas. C'est l'être humain dont je me méfie, moi.
Celle qui se méfie aussi dans cette émission, peut-être que vous la connaissez, c'est la culture et son actualité conservatrice, rétrograde, pour ne pas dire complètement arrière. Et parfois, que se passe-t-il donc aujourd'hui, mardi 30 janvier?
Luis ha dicho que va a matar a Raúl.
Penélope Cruz.
Yo quería agradeceros al equipo el trabajo que nos habéis dado estas semanas.
Tengo miedo del encuentro.
Kylie Cruz, après George Clooney, c'est l'actrice Penélope Cruz qui recevra cette année un César d'honneur, une compression d'or pour saluer l'ensemble d'une carrière commencée en 1992 dans Ramon Ramon de Bigas Luna et qui se poursuit aujourd'hui encore dans la triomphale série American Crime Story, muse incontournable du cinéma de Pedro Almodóvar. Penélope Cruz est la première actrice espagnole à avoir raflé un Oscar. Elle sera également la première à recevoir un César d'honneur. Vamos!
«
350 ans, toujours swingant. En 2019, l'Opéra de Paris fêtera ses 3 décennies et demie de pas de bourré et de contrute. Hier, pour l'occasion, son directeur Stéphane Lissner a dévoilé le programme des festivités du français, de la modernité et des surprises. On pourra y voir notamment les Huguenots de Meyerbeer par Andras Krikenburg, une nouvelle Traviata par Simon Stone, une battle de hip-hop à Garnier, même une expo de gars à l'Opéra. On a hâte de voir ça.
« T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. » T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur,
Vesoul et on a vu l'Asie, car c'est aujourd'hui que s'ouvre la 24e édition du Festival International des Cinémas d'Asie de Vesoul, au programme un focus parole de femme, avec notamment la réalisatrice afghane Roya Sadat, ou le cinéaste mongol Bienbassoren Dava. Une rétrospective consacrée au réalisateur syrien Mohamed Malas et 90 films projetés, 20 en compétition pour le Cyclo d'Or, dont River's Edge, le nouveau film du chinois Wang Chao. Ça c'est chic.
Voyage, voyage.
Et voyage, voyage, ça nous manquait. C'est ce que propose l'exposition Événement Peinture des Lointains qui ouvre aujourd'hui ses portes au musée du Quai Branly Jacques Chirac à Paris. Plus de 220 œuvres réunies pour témoigner de la passionnante question de l'évolution du regard que porte l'Occident sur l'autre avec un grand A et sur l'ailleurs. Au programme du Matisse, du Gauguin, du Tissier ou du Kathleen. Et ça, c'est beau, c'est bon, c'est bien. Et Léa Drucker, invitée de Boomerang ce matin pour son rôle dans Jusqu'à la garde, premier long métrage impressionnant de Xavier Legrand. Ce film, c'est la suite, on le disait, d'un court métrage qui s'appelle Avant que de tout perdre et qui a connu un immense succès, nommé aux Oscars dans la catégorie meilleur court métrage il y a 4 ans, rien que ça. Grand prix du festival de Clermont-Ferrand, César du meilleur court métrage. Jusqu'à la garde, le long métrage a reçu quant à lui les honneurs du festival de Venise, notamment un double lion d'argent pour la mise en scène et pour le meilleur premier film. Ce qui est intéressant quand même, c'est que vous n'êtes jamais la dernière à dire oui à des premiers films, justement. Qu'est-ce qui vous attire tant dans ce type de projet ?
Ce que j'aime dans les premiers films, c'est que y a certainement une liberté qu'on y trouve, parfois avec plus ou moins de moyens. Mais c'est vrai que cette liberté permet de faire des rencontres avec des réalisateurs ou des réalisatrices qui ont un univers et qui cherchent qui ont tout à proposer, un peu comme nous, hein, la première fois qu'on m'a proposé une pièce importante. Bon, il y a quelque chose où on se livre complètement.
Et puis j'ai l'impression que c'est aussi une aventure collective plus que jamais, un premier film. On se porte tous mutuellement sans doute. En tant que comédienne, est-ce que vous avez l'impression qu'accompagner le metteur en scène, ça fait partie de votre travail aussi?
Bah, ce qui est sûr, c'est que c'est de partager une aventure en commun. Moi, j'ai à chaque fois l'impression que c'est la première fois que je tourne, parce que j'ai à chaque fois l'impression qu'il faut re-escalader cette montagne. Donc faire un premier film, bon là c'est particulier parce qu'on avait fait ce court-métrage, mais c'est quand même la première fois, quoi. Et en effet, on n'est pas tout seul. C'est un truc de tout à fait collectif. En plus, Xavier a repris la même équipe technique que sur le court-métrage. Donc, il y a une aventure commune autour d'une histoire qu'on veut défendre tous ensemble et qui nous touche. Il y a un pari, il y a quelque chose de... Et on se sent assez libre, en fait. Voilà, on se sent assez libre. Il y a moins la pression il y a eu ce film avant, il faut reprouver que... Voilà.
De quel accompagnement est-ce que vous avez besoin, vous, sur un tournage ?
J'ai pas besoin de beaucoup d'accompagnement, en fait. J'aime assez la solitude. Il y a une partie du travail où j'ai besoin d'être assez seule. J'ai besoin d'être un peu... qu'on m'envahisse pas trop d'informations. J'aime pas trop parler, en fait. J'aime bien plaisanter, j'aime bien rigoler. j'en ai besoin dans les coulisses, mais dans le travail, j'aime pas qu'on me surcharge d'informations.
Il faut être à l'écoute.
Avant le tournage, mais... pendant, j'ai besoin qu'on me laisse un petit peu tranquille, sauf quand c'est des réalisateurs, ou comme Xavier, ou d'autres réalisateurs avec qui j'ai travaillé, qui ont des précisions à donner, ou alors un truc que j'arrive pas à faire, bien sûr. Mais j'aime bien quand ils me proposent, ceux qui ont une certaine musicalité, ce qui est le cas de Xavier, parfois c'est assez musical. Il a le sens du rythme, il a le sens des silences, tout ça, ça m'intéresse beaucoup, mais sur la psychologie, j'aime pas trop.
Il se trouve que l'écoute dont on parlait tout à l'heure, elle est centrale, hein, dans Jusqu'à la garde. Comment témoigne la scène d'ouverture où le couple que vous formez avec Denis Ménochet a été écouté, ou plutôt entendu, par le juge aux affaires familiales.
Joséphine était en troisième, il la surveillait tout le temps, il voulait pas qu'elle fréquente. Il l'avait vue en train d'embrasser Samuel devant le conservatoire. Elle fait du piano depuis qu'elle a 6 ans, Samuel, c'est son petit copain. Et donc ce jour-là, elle avait séché son cours pour le voir, et donc il l'a surprise. Et le soir, il a attendu qu'elle rentre et il l'a frappée. Moi, j'étais à mon travail et il m'a appelé en menaçant de casser les mains de ma fille si je rentrais pas tout de suite. Et donc, elle avait mal et le lendemain, elle est allée voir l'infirmière scolaire pour lui signaler les problèmes qu'on avait à la maison.
D'accord. Monsieur ?
Ma fille s'est foulée le poignet au collège en cours de sport. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?
Je sais pas lequel des deux qui ment le plus, par exemple.
Lequel des deux ment le plus, Léa Drucker? À ce stade du film, pour quiconque n'aurait pas vu le court-métrage, c'est effectivement difficile à dire.
Oui, c'est ambigu. Et c'est bien que ça le soit. Parce que je crois que c'est toute la difficulté de résoudre un problème comme ça, de décider de la garde d'un enfant, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux. Et pour un juge, j'imagine que c'est extrêmement compliqué de savoir ce qui se passe vraiment dans l'intimité d'un couple ou d'une famille. Et c'est toujours c'est des mystères qui peuvent avoir difficiles à résoudre et qui peuvent avoir des conséquences parfois dramatiques.
Elle aurait pu dire, la juge, lequel des deux joue la comédie? Et dans quelle mesure, c'est la question que je vous pose, est-ce que jouer la comédie, c'est bien mentir pour vous?
C'est bizarre parce que des fois, dans le mensonge, des fois, on peut y croire,
oui,
au mensonge qu'on est en train de raconter. Moi, je sais que petite, je racontais parfois des mensonges et j'y croyais sur le moment. On s'invente des vies par le mensonge.
Ça serait créer l'illusion de la vérité, effectivement.
Ouais. Et parfois, on dit la vérité et on ne vous croit pas. Donc, c'est assez lié.
Par le cinéma, notamment.
Ouais.
Votre plus belle illusion de cinéma, qu'est-ce que ça a été, vous?
Ça a été la première fois que je suis allée au cinéma et que j'ai vu le Magicien d'Oz et que j'étais convaincue que tout ça était vrai.
Ah vraiment ?
Oui. Je pensais que c'était un documentaire presque. Je pensais que c'était ce qui était filmé à Hollywood, étaient les décors, une maison qui s'envole. Je pensais que tout ça était réel.
Ça veut dire que vous avez passé votre enfance à porter des chaussures rouges, à guetter des cyclones fabriquant des épouvantails.
Un certain temps.
Léa, à chanter des chansons aussi.
Toujours.
Dans la vraie vie,
ouais.
Par exemple.
J'ai chanté tout ça, j'aimais tous les standards des comédies musicales américaines, je chante un peu Barbara Streisand chez moi de temps en temps, ou Lisa Minnelli dans Cabaret, mais chez moi.
Bon, c'est pas par-delà de l'arc-en-ciel comme dans Le Magicien d'Oz que je vous emmène ce matin, mais derrière le mur, tout ce qu'on ne voit pas, avec Tracy Chapman, Behind the Wall. Vous êtes sur France Inter avec Léa Drucker, donc vous écoutez Boomerang un mardi matin.
Last night I heard the screaming, loud voices behind the wall. Another sleepless night for me. It won't do no good to call the police. Always come late if they come at all. Last night I heard the screaming, loud voices behind the wall. Another sleepless night for me, it won't do no good to call the police. Always come late if they come at all. And when they arrive, they say they can't interfere with domestic affairs between a man and his wife. And as they walk out the door, the tears well up in her eyes. Last night I heard the screaming, then a silence that chilled my soul. Prayed that I was dreaming when I saw the ambulance in the road. And the policeman said, I'm here to keep the peace. Will the crowd disperse? I think we all could use some sleep. Last night I heard the screaming, loud voices behind the wall. Another sleepless night for me, it won't do no good to call the police. Always come late if they come at all.
Boomerang sur France Inter.
Elle a l'air, en face de moi, comme ça, rassurant, plein d'empathie d'un médecin, d'un juge ou d'un écrivain, attentionné, précise, sagace, tout est dans son maintien en fait, dans son aveuglante blondeur, dans ses yeux bleus car rien n'échappe. D'un regard un seul, elle vous arrache une confidence, un aveu, une vérité que vous aviez tout fait pour dissimuler, avec son pull bleu, roulé ou cheminé. Ce matin, Léa Drucker, invitée de Boomerang pour son rôle dans Jusqu'à la garde de Xavier Legrand, qui sort dans une semaine, l'histoire, on le disait, d'une femme qui cherche à fuir un mari violent, avec qui elle partage la garde de son fils pour l'instant. Et l'un des enjeux pour ce personnage, c'est de parvenir à retrouver un chez-soi, une maison, un foyer. Quel lieu est-ce que ça représente, la maison, pour elle ?
La maison, pour elle, c'est une, je crois, c'est une femme qui est dépossédée de son identité. C'est une mère, une femme qui a tout quitté, qui a quitté son boulot, qui a quitté le domicile conjugal pour retrouver encore une fois, comme vous dites, une autre maison. Mais cette maison, c'est le début de quelque chose. C'est un aspect positif, d'ailleurs, du parcours de ce personnage, mais c'est une reconstruction. C'est le début de ça, quoi. Le début d'essayer de se reconstruire. Mais comment on se reconstruit quand on ne sait plus qui on est, quand on ne sait plus qui on est en tant que mère, en tant que femme aussi, comment on retrouve ses désirs, comment. Et ça, c'est quelque chose qu'on ressent, je crois, dans le film, enfin que moi j'ai ressenti très fortement en tournant dans ce film, avec des sentiments que j'avais pas prévus, des sensations que j'avais pas prévues, de l'ordre d'une colère qui peut pas s'exprimer, de l'ordre d'une humiliation aussi, d'une honte. Mais il y a quand même ce désir de retrouver sa liberté, de
ce qui passe effectivement par un chez soi. Et là, c'est le lecteur de Virginia Woolf, une chambre à soi, qui parle. Où est-ce que vous vous sentez chez vous, vous?
Je me sens chez moi, maintenant chez moi, mais ça a pris du temps.
Ben oui, je vous pose aussi la question enfant, vous avez souvent déménagé, vous avez notamment vécu entre la France et les États-Unis avant de vous installer à Paris à l'adolescence. Léa Drucker, ces allers-retours entre deux cultures, en quoi est-ce que ça vous a formé aussi, artistiquement ?
D'abord, j'ai été obligée d'apprendre une autre langue quand j'étais toute petite, quand j'avais 5 ans, donc je crois que ça bouscule un peu, ça crée quelque chose de, il y a une urgence. En une semaine, quand on est gamin, il faut apprendre vite à parler anglais pour pouvoir communiquer avec les autres. Et puis, c'était une époque où les États-Unis, c'était les grandes bagnoles, les hamburgers. C'était vraiment le cliché du rêve américain. Et ça m'a vraiment enchantée, quoi. J'ai trouvé ça, mais ça a complètement changé maintenant. Mais il y avait comment on appelle ça, des grands espaces, oui. Cette notion de grands espaces.
Là. Alors le retour
les
à
Américains,
Paris.
Tout est grand. Eh ben, j'étais pas à Paris, moi j'étais en province, j'étais à Tours. Donc tout d'un coup, tout se réduit. C'est l'idée de, je crois que ça touche aussi à l'ambition, à des choses. On peut voir grand, voilà. Et aussi en Amérique, quand vous êtes à l'école, on vous dit, vous dessinez un petit morceau, un petit lutin sur un bout de papier, on vous dit, ah, c'est génial, fantastic, you're a great painter. Et c'est parti, tu vas être un grand artiste. Donc quand t'es gamin, après ça change parce que tout ça est une illusion, bien sûr. Mais j'ai encore un petit air de ça dans la tête parfois.
À propos de grandes choses, quel vertige est-ce que ça a été la première fois que vous êtes montée sur scène ?
La première fois que je suis montée sur scène, c'était au lycée. C'est une des plus grandes peurs de ma vie. Je crois que c'est un des plus grands tracks. Parce que j'avais pas conscience de ça, mais j'allais livrer quelque chose d'intime et de quelque chose que je prenais vraiment au sérieux, qui était très important pour moi. Mais j'en avais pas conscience. Donc j'ai eu une peur surdimensionnée.
Vous faisiez une différence déjà entre actrice de théâtre et actrice de cinéma ?
Non. Pas du tout. Si ce n'est que le théâtre, je le découvrais au lycée avec ce prof et que je ne connaissais pas grand-chose au théâtre. J'étais pas très cultivée là-dessus. Donc il y avait des notions que je ne comprenais pas. Mais par contre, le jeu, pour moi, était quelque chose de réel. Il fallait vraiment que ce soit vrai, tout en jouant une scène de Marivaux.
Qu'est-ce que c'est une actrice pour vous ?
Une actrice, il y a quelque chose d'un peu surdimensionné. Elle est un peu. Ce que j'aime bien, c'est les personnages. Une actrice, il y a quelque chose de d'un peu hors norme, quoi. D'un peu quelqu'un qui est capable, qui se moque du ridicule, qui n'a pas peur du ridicule, qui prend des risques, c'est un personnage qui peut être assez drôle. Moi, j'adore le personnage que joue Diane Weiss dans Coup de feu sur Broadway, par exemple. On pourrait dire que c'est caricatural, etc. Mais en même temps, je le trouve assez vrai, ce personnage. Il y a quelque chose, une espèce de dimension. C'est des femmes, et je m'intègre pas là-dedans quand je dis ça. Parce que c'est le point de vue que j'ai eu très très longtemps sur les actrices. C'était un peu des déesses.
Moi, quand je pense aux actrices, il y a une voix qui me vient tout de suite à l'esprit. Et vous la connaissez bien, c'est celle de Delphine Seyrig, ouais. Dans Baiser volé, tiens, de François Truffaut, en 1968.
Je ne suis pas une apparition, je suis une femme. Ce qui est tout le contraire. Par exemple, ce matin, avant de venir ici, je me suis maquillée. Je me suis mis de la poudre sur le nez. Je me suis fait les yeux. Et en traversant Paris, je me suis aperçue que toutes les femmes faisaient la même chose. Pour le plaisir ou par politesse. Vous dites que je suis exceptionnelle. Ah oui, c'est vrai, je suis exceptionnelle. Toutes les femmes sont exceptionnelles, chacune à leur tour. Vous, là, vous êtes tout à fait exceptionnelle. Vos empreintes digitales sont uniques au monde, vous saviez ça? Vous êtes uniques, nous sommes tous les deux uniques. Uniques et irremplaçables. Je comprends que vous restiez silencieux, mais je voudrais bien que vous me regardiez. Que vous me regardiez, moi. Vous m'avez écrit hier, et la réponse, c'est moi.
C'est sublime, hein?
Waouh, c'est vous qui l'avez choisi,
ouais.
Cette scène de baiser volé.
Ouais, elle est magnifique, cette scène.
Je ne suis pas une apparition, je suis une femme.
Ouais, c'est en écriture, c'est génial. Et puis, elle est géniale. Et puis, Delphine Seyrig, voilà, quelqu'un d'assez hors norme. Mais en même temps, dans cette scène, elle veut pas l'être. Elle lui dit qu'elle veut pas être un fantasme, qu'elle veut être quelqu'un. C'est ça qui est beau, elle veut être maître de son destin.
C'est une phrase très forte qui dit aussi quelque chose d'aujourd'hui,
ouais.
Je trouve.
Ben oui, je ne suis pas une apparition, je suis une femme. Et en même temps, elle dit « je suis exceptionnelle ». C'est l'idée que une femme ne veut pas être rangée dans une case. Une femme, c'est ce que dit Delphine Seyrig, c'est « regardez-moi, moi ».
C'est une grande voix du féminisme aussi, Delphine Seyrig. J'ai regardé des entretiens, du coup, pour préparer cette émission.
Très militante, très engagée.
Et c'est ça, tout ce qu'elle dit sur le sexisme, c'est exactement ce qu'on entend aujourd'hui, en fait.
Ouais, elle était en avance, comme pas mal de femmes à cette époque, très, très combatives, très courageuses. Elles ont pris des risques, elles ont signé le manifeste des 343, se sont fait insulter. pourtant, il n'y avait pas Twitter à l'époque, mais enfin, elles étaient... Elle était très engagée, très très fascinante. C'est une femme un peu qui me fait rêver parce que, et en même temps, ça va à l'encontre de ce que dit cette scène, mais ce courage-là d'être soi, de parler de ses convictions et en même temps avec beaucoup de grâce et beaucoup d'élégance et de douceur.
À la fin des années 60, pourquoi est-ce que les choses prennent-elles tant de temps, à votre avis? Pourquoi est-ce qu'on l'entendait pas?
Pourquoi est-ce que
ça prend tellement de temps pour qu'on l'entende? Toutes ces revendications.
Depuis les années 60, ouais. Vous voulez dire, parce que j'ai l'impression que le féminisme, ça avance et on avance et après on recule. Et on avance et on recule. J'ai l'impression que c'est des mouvements comme ça.
Le fameux backlash dont parlent les féministes.
J'espère que ce qui se passe aujourd'hui est quelque chose qui va s'ancrer plus profondément dans la société, je crois. Je crois qu'il y a une vraie secousse. Je crois qu'il y a quelque chose de très puissant qui est en train de se passer. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est bien pour nous et puis pour les hommes aussi, c'est bien.
Merci infiniment, Léa Drucker, d'être venue faire un tour dans Boomerang jusqu'à la garde de Xavier Legrand avec Denis Ménochet et le tout jeune Thomas Gurria sort le 7 février. C'est un grand film, surprenant, haletant, un film à l'image de Sonia Deville. Arrête son instant M qu'on retrouve juste après ça.
Blafarde je courais